Gloire à Dieu. Bien-aimés, tournons-nous vers le Seigneur, celui qui nous a donné l'être, le mouvement et la vie. Tournons-nous vers lui et demandons-lui le secours en ce soir. En cette nouvelle soirée, nous voulons parler des nouveaux défis. Demandons à l'Éternel de nous visiter chacun pour sa part, de visiter son Église, de la toucher, de lui parler de façon efficace en ce temps où tout le monde cherche les repères, dans ce temps où l'humanité frémit, où les hommes se remettent en question, où les enfants paniquent, où les parents ne sont pas mieux rassurés, où tout le monde se demande « Que vais-je faire ?» Tournons-nous vers l'Éternel, disons-lui. La Bible déclare « Tu es l'auteur et le consommateur de ma foi. » Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je ne me détournerai pas de toi. C'est en toi que je veux trouver mes sources. C'est en toi que je veux trouver ma force. C'est vers toi que je veux tourner que je veux trouver l'orientation de ma destinée. Seigneur, parle une fois de plus ce soir. J'ai besoin de toi. Oh Yahvé, nous voulons te célébrer et te bénir. Parce que tu dis dans ta parole que là où deux ou trois sont rassemblés en ton nom, tu es au milieu d'eux. Nous saluons ta divine présence, divine majesté. Nous célébrons ta magnificence et nous reconnaissons ton règne. Nous reconnaissons que rien n'existe, ne se développe sur la terre sans ton approbation. Rien ne passe, Seigneur, sans que tu aies mis un cachet. Et Seigneur, c'est toi l'auteur de la vie, c'est toi qui peux décider de nous. Nous sommes venus t'écouter, nous ne sommes pas venus écouter un homme. Nous soupirons après les moments où tu vas parler à nos cœurs. Seigneur, parle une fois de plus, nous avons besoin de toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Sois béni. Dis bonsoir à ton voisin. Dis-lui bonsoir. Juste un petit lever de main. Vous savez, comme il est dit dans cette époque, nous sommes à l'époque où les défis se multiplient, où l'Église connaît des moments particuliers dans sa croissance, où le monde entier connaît un passage particulier dans son histoire. Et ce soir, il sera question de parler des nouveaux défis. Pourquoi les nouveaux défis? Parce qu'il y a des défis qui étaient anciens, selon la vision que tu avais. Après avoir, Dieu a des soifs, des aspirations dans ta vie. Et c'est à juste titre que Dieu s'attend à des choses nouvelles sur ton histoire. Parce que tu es une nouvelle création, appelée à manifester le surnaturel sur la terre. D'ailleurs, je veux m'arrêter sur le mot défi pour essayer de le décortiquer. Le dé marque l'absence. Et le mot fi, dans le mot défi, il y a la racine qui est fidée, qui est la foi. Au travers des défis, la foi est soit confirmée ou infirmée. Soit par un défi, ta foi, tes convictions sont enracinées, sont davantage assises, ou par le défi, ta foi est démise, tes convictions sont démises, ta direction est démise, ta force est démise, ton orientation est démise. Dans tous les cas, au travers du défi, il y a une confrontation, il y a un affrontement, il y a un obstacle à traverser, un obstacle qui questionne tes raisonnements, qui questionne tes convictions, qui questionne la force que tu investis dans tout ce que tu fais. Et si nous parlons de nouveaux défis ce soir, l'Éternel a de nouveaux sentiers qu'il veut visiter avec son Église nouvellement créée dans les empreintes de Jésus-Christ. Donc, l'enjeu du défi, c'est soit la confirmation ou l'infirmation de la foi, de tes croyances, de tes convictions, de tout ce qui te porte. Donc, il est question ce soir de regarder ce que Dieu pense par rapport à ce que nous vivons, à ce que nous croyons, et de voir même la pensée qu'il a de l'Église qu'il s'est nouvellement faite. Ça, c'est très important. Donc, en étudiant ce thème, le Seigneur m'a fait m'arrêter sur trois dimensions du défi, trois grandes dimensions. Vous allez m'excuser parce que l'auteur de cette partie dans le livre s'est arrêté sur une dimension essentiellement. Il a développé une dimension. Dieu me montre que pour affronter les défis et pour les saisir, pour les traverser, il faut comprendre le défi au moins à trois niveaux. C'est au moins trois niveaux de la compréhension du défi que nous devons traverser afin d'être conformes à la pensée de Dieu. L'Église naissant dans les entrailles de Jésus-Christ a pour premier défi de retrouver le plan de Dieu. C'est le tout premier défi. Le tout premier défi qui fait que nous ayons de nouveaux défis selon Dieu, qui fait que nous ayons de nouvelles missions selon Dieu, c'est retrouver le plan originel de Dieu ou alors retrouver la vision de Dieu pour ton histoire. Tant que tu ne l'as pas trouvé, le nouveau défi ne peut pas prendre son plein sens. Le nouveau défi prend son sens à partir du moment où tu rentres dans le plan, le canevas de Dieu. Et rentrer dans le canevas de Dieu a lui-même plusieurs dimensions. Donc j'ai dit, premier élément, c'est garder la communion avec Dieu. Ce qui nous a fait perdre la face de Dieu, nous séparer des défis de Dieu, c'est la séparation dans le jardin d'Éden. Et aujourd'hui, pour reprendre la route et saisir le sens de notre mission, entrer dans la plénitude de la pensée de Dieu, il est question de retrouver la route en affrontant les choses avec la pensée et la vision de Dieu. C'est la première chose, rentrer dans la communion de Dieu. Si tu ne rentres pas dans la communion de Dieu, il est impossible de parler des nouveaux défis selon le cœur de Dieu. Il est impossible d'évoluer selon la pensée de Dieu. C'est pourquoi premier défi à accepter, c'est accepter de mourir en soi-même, laisser Dieu vivre en soi. C'est accepter de laisser Dieu établir en nous son trône pour pouvoir régner. Quand nous faisons la prière quotidienne et que nous disons que ton règne vienne, nous sommes en train de soupirer après cette croix de Dieu. Le premier défi de l'Église, c'est de parvenir à mourir pour laisser Christ croître. C'est de parvenir à s'effacer pour laisser Christ prendre la place. Parce que ce qui est attendu, ce ne sont pas nos idées, ce ne sont pas nos conceptions, ce n'est pas notre intelligence. Ce qui est attendu aujourd'hui, qui doit manifester le ciel sur la terre, c'est Dieu opérant au milieu de toi. C'est Dieu opérant en toi. C'est Jésus-Christ opérant en toi. C'est le Saint-Esprit transcendant le naturel pour aborder le surnaturel. Il n'y a pas de nouveau défi tant que ce défi n'est relevé. Le défi de mourir en soi. Le défi de laisser Jésus-Christ croître dans ton cœur. Le défi de laisser Jésus-Christ prendre la place du trône, s'établir en main. C'est là où les défis de Dieu commencent. Ce n'est pas le défi de l'intelligence. La nouvelle race, ce n'est pas une race d'homme ordinaire. C'est une race d'homme maîtrise, bâtie selon les actes de l'esprit. C'est pourquoi le premier défi que chacun d'entre nous doit affronter, c'est le défi de rétablir la communion avec Dieu. Et la communion avec Dieu ne s'établit que lorsque les brebis sont gardées, lorsque les âmes rebelles rentrent à la maison et donnent sa place au Père. C'est une histoire singulière, une histoire personnelle entre Dieu et toi. Il n'y a personne qui peut intervenir là. Aucune personne ne peut t'amener quelque chose qui puisse t'aider là-dedans. Toi seul à seul avec Dieu, tu fais cette question. C'est le premier défi que chaque créature doit relever pour que les défis de Dieu prennent sa place. Deuxième défi que nous devons relever, c'est le défi de s'accepter. Écoute. Tant que tu n'accepteras pas la mission que Dieu te confie, tant que tu n'accepteras pas la forme que Dieu te donne, tu ne peux pas croire dans les plans de Dieu. Tu seras reçu en toi-même parce que tu n'as pas accepté la vision, tu n'as pas accepté le dépôt de Dieu. Il y en a qui ne se voient qu'au travers des gens, il y en a qui ne se voient qu'avec des personnes. Il y a des défis sociaux, la croisière de conscience sexuelle, comme on l'a dit. Il y a des défis sociaux aujourd'hui qui nous montrent que tant que nous sommes l'église de la masse, l'église du nom et de la dénomination, nous ne pouvons pas efficacement approcher, nous ne pouvons pas efficacement influencer ce monde, relever les défis selon la pensée de Dieu. Le deuxième défi, c'est de t'accepter toi-même, d'accepter qui tu es, accepter ta taille, accepter ton gabarit. Aujourd'hui, beaucoup de choses montrent que l'Église est malade. Les chrétiens sont malades. Beaucoup ne s'acceptent pas. Si ce n'est pas la taille, c'est le gabarit qu'on n'accepte pas. Si ce n'est pas le gabarit, c'est le teint qu'on n'accepte pas. C'est à des moments la façon de penser. On a toujours quelque chose à réduire sur soi. Mais j'aimerais te dire que tu es une forme singulière, née de Dieu pour accomplir des missions singulières dans ce monde. Personne ne peut faire comme toi. Personne ne doit penser comme toi dans la vision de Dieu.
C'est pourquoi Dieu te fait singulier, singulière, afin que ta distinction soit claire et que l'Église soit nourrie par le fruit du surnaturel qu'il a déposé en toi. Ta forme est particulière. Ne cherche pas à ressembler à quelqu'un. Tu ne feras jamais comme lui. Tu ne feras pas comme lui. Tout au plus, tu vas te rapprocher de lui. Tu ne peux pas être exactement comme lui. Impossible.
Ainsi, mon âme soupire.
Il est important que tu guérisses dans tes blessures. Dieu, il y a des hommes là qui devaient être dans leur ministère. Aujourd'hui, ils sont au banc de chauffage. Pourquoi? Les âmes sont malades, blessées. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Ta santé extérieure se révèle par rapport à la santé intérieure. Si à l'intérieur tu n'es pas en santé, à l'extérieur tu ne seras pas en santé. Et on va trouver des chrétiens qu'on nourrit tous les jours, mais qui tous les jours sont à la perfusion, qui tous les jours sont au soufflet des perfusions qu'on administre tout le temps pour relever les cadavres. Ce n'est pas l'église que Jésus voulait bâtir. L'église qui relève les défis selon le Saint-Esprit, c'est une église d'hommes et de femmes qui s'est acceptée. C'est une église d'hommes et de femmes qui a accepté la vision de Dieu, qui a accepté la marque différentielle que Dieu a déposée en elle par le Saint-Esprit. Il faut que tu rencontres ton histoire, tu rencontres le vrai toi et que tu acceptes la personne que Dieu bâtit en toi. Cesse de regarder ton avenir dans quelqu'un qui n'est que l'image du vrai toi, qui n'est que la photocopie alors que tu es l'original et l'original de ton histoire. Pourquoi est-ce que c'est une photocopie qui laisse pâlir le caractère des écritures de Christ? Tu as une lettre écrite adressée à l'humanité qui doit faire écho. Ce n'est qu'en laissant ta lettre être exposée que les âmes seront guéries, que les gens seront guéris autour de toi.
Pour t'adorer.
Nous habitons dans la troisième partie. Très diligent parce que la troisième partie, parce que c'est l'essentiel de notre entretien. On arrive à la troisième partie qui concerne la troisième dimension. J'ai dit la première dimension, c'est la relation avec Dieu. La deuxième dimension, c'est la relation réflexive avec moi-même, avec mes émotions, mes sentiments, la qualité de langage, la façon d'être, tout ça. Si on me reconcilie avec elle, si je veux relever les défis, si je veux affronter les nouveaux défis, selon la pensée de Dieu, en dimension, ça n'est pas pour influencer le monde. Il faut que cette dimension soit guérie. Troisième dimension, c'est la dimension horizontale, comme horizontale ou relationnelle. C'est là-dedans que nous
trouvons.
Et nous sommes au cœur du
monde.
N'est-ce pas un défi aujourd'hui que de vivre cette époque? Ça fait combien de temps on n'a pas vu le monde entier dans une panique telle que celle dans laquelle on la voit aujourd'hui? Ça fait combien de temps? Combien de temps on n'a pas vu l'Église, on n'a pas vu la communauté internationale, on n'a pas vu le monde entier paniquer tel qu'on panique aujourd'hui? Ça fait combien de temps? C'est énorme. Dieu a des rêves qui doivent s'accomplir. Pour que ces rêves s'accomplissent, il faut que quelque chose se passe. Il y a des portes qui doivent s'ouvrir. Et cette porte en s'ouvrant vont apporter la touche de Dieu dans ta vie. Et nous sommes à l'époque où un mot est régulier et est fréquent au milieu de la société toute entière. On parle partout du confinement, c'est pas ça? Confinement, n'est-ce pas? Le défi social aujourd'hui, c'est de parvenir au confinement. C'est un des défis de l'Église. Le confinement, ça veut dire quoi? On se retire. Est-ce que le confinement est étrange à la doctrine biblique? Est-ce que Dieu, un moment, a suscité des temps de confinement? Je dis oui. Quand vous lisez le livre de la Genèse, le livre de l'Exode, pardon, et de Genèse, Genèse Exode, et que vous voyez la sortie du peuple d'Israël de l'Égypte, quand un moment, cet esclave hébreu était là dans la vallée, dans la plaine de Goshen, et cherchait la solution pour sortir de son esclavage, Dieu a déclaré le confinement. Il a dit par la bouche de Moïse, dis à tous les enfants d'Israël que chacun d'entre eux fasse quoi? Qu'il se retire en famille et que de soirée, qu'on fasse quoi? On tue l'agneau, on verse le sang, on répand le sang sur les linteaux de la porte et qu'on demeure dans la maison jusqu'à ce que l'ange de la pestilence, l'ange de la mort, passent et finissent avec la princesse. Première étape dans l'Ancien Testament, on a vu le confinement. Dans le Nouveau Testament, on a aussi vu le confinement. On a vu le confinement quand Jésus finit d'encadrer ses ascènes. Et qui leur dit, au premier moment, restez là jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne vous visiter. C'était du confinement. C'était le confinement, ce n'est pas anti-biblique. Écoutez, l'église de quatre murs où on ne compte que sur la foi collective va s'arrêter un moment. L'église qui va traverser l'époque de turbulence, c'est l'église qui a connu la relation intime avec Dieu. Le temps de la singularité est arrivé, le temps de la destinée singulière est arrivé où chacun doit embrasser son histoire. La foi sera remise en question. Écoutez-moi, je vous dis, on dit coronavirus, on dit, je sais qu'il y a des gens qui disent ça ne peut pas m'arriver. Oui, dans la grâce de Dieu, Dieu veille sur toi. Il y a une alliance de paix sur toi pour que Dieu veille sur toi. Mais ce n'est pas parce que Dieu veille sur toi que tu dois prendre des risques inutiles. J'aimerais te rappeler que c'est le temps où le fils doit prendre position. Et j'entends pendant ce moment relever le défi. Comme au thème des défis, non. Les défis nous font tous de bon relever le défi. Est-ce que la Corée du Sud est un des pays les plus chrétiens du monde? Où on trouve le plus grand nombre de chrétiens avec une foi active? Vous le savez? Est-ce que vous savez que dans le fonctionnement de l'Alliance biblique, c'est des gens qui portent l'édition de la Bible plus puissamment que nous? Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous savez que ces gens croient fermement en Dieu? Leur foi est légendaire. Mais est-ce que vous savez qu'un des foyers les plus grands de l'éducation du coronavirus est passé par l'église? Est-ce que vous le savez? Parce que quand c'est arrivé, les frères n'ont pas cru nécessaire de prendre le minimum des mesures. On a dit que Dieu va nous sauver. Je ne dis pas que Dieu ne sauve pas, mais Dieu sauve quand tu es dans le contexte dans lequel il peut te sauver. Souvenez-vous de cette histoire biblique. Souvenez-vous de Jésus devant Satan. Satan lui dit, qui tu veux t'en tombe parce qu'il est écrit que les anges vont te protéger de peur que ton pied ne te heurte. Parce que Dieu. Et puis il répond, il n'est pas nécessaire, tu ne t'enteras pas du Seigneur, le Seigneur ton Dieu. Il y a des fois, des façons de manifester la voix qui sont une tentation vis-à-vis de Dieu, qui sont la violation des principes de Dieu, une foi mal placée qui entraîne des conséquences fâcheuses. Le ciel ne te répondra pas parce que le ciel n'était pas avec toi lorsque tu concevais tes idées, lorsque tu arrêtais ta vision, lorsque tu arrêtais ta façon de fonctionner. Elle ne reposait que sur l'audace simple, l'orgueil et sans aucun fondement. Et quand c'est comme ça, tu payes le prix. Je prends un autre exemple. Il y a un grand frère tout juste ici au Burkina Faso. C'est un grand homme de Dieu, tout le monde le connaît. Il a attrapé le coronavirus. Et quand il a attrapé le coronavirus, l'humanité a commencé à se poser la question. Mais cet homme a prié. Il a prié avec sa femme, ils n'ont fait que 3 jours dans la maladie. Le Seigneur les a relevés. Je ne te demande pas d'aller essayer avant que tu sois relevé. Écoute, quand tu te mets en danger, tu ne mets pas en danger que toi seul. Tu mets en danger toute la société. C'est toute la société. Parce qu'il suffit, tu t'exposes d'une certaine manière, tu exposes tout le monde. Et une des choses que l'amour fait, c'est que l'amour peut mourir pour l'autre. L'amour peut accepter de perdre ses privilèges pour l'autre. Si tu aimes son frère, la moindre des choses, c'est de prendre les précautions. Écoute, nous avons l'habitude de nous saluer pratiquement jusqu'à un certain moment. Mais il est nécessaire, il est urgent que nous apprenions à respecter les mesures établies. Elles ne te font pas du mal. Elles ne sont là pour te permettre que de vivre en sécurité. Le premier confinement, quand ça s'est passé avec le peuple d'Israël en Égypte, s'est passé avec une vision de sauver Israël de l'agresseur étranger. Et le divin agresseur, le mauvais agresseur, pardon, aujourd'hui, c'est Satan. Le premier agresseur qu'on écarte de la vie des hommes, c'est Satan, il est question de sauver les hommes. Le deuxième confinement qui a eu lieu dans l'histoire a été précurseur de la naissance de l'Église. Dans tous les cas, c'était possible.
Soupir après des courants
d'eau. Suivez-moi du regard. Romains 8, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. On avait dit sauf la paix. On avait dit sauf ça. Non, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Si tu aimes Dieu, même cette époque, cette situation concourt à ton bien-être. Cette situation travaille à bâtir le missionnaire qui est en toi. Cette situation travaille à révéler l'Église glorifiée. Cette situation travaille à manifester Christ opérant. Est-ce que pendant que le coronavirus passe, les dons de guérison sont morts? Est-ce que pendant que le coronavirus passe, le don de la prophétie est mort? Est-ce que pendant que le coronavirus passe, les dons entre le doctorat et tout le reste sont morts? Je vais te dire quelque chose. Ce moment arrive afin de causer un certain langage à l'Église, de parler à l'Église. C'est le temps où l'Église des maisons doit recommencer. C'est le temps où le pasteur de la maison doit reprendre sa place. Depuis longtemps, il a laissé son rôle. Il a abandonné sa place en tant que pasteur de sa famille. Il a recommandé au pasteur de l'Église en tant que système. Et Dieu, par ses maladies, est en train de te dire, reprends ta place. Reprends ta place. Tu t'es déjà trop écarté de ton rôle. Dieu est en train, au travers de cette maladie, moi c'est comme ça que je comprends les choses, de questionner ton système éducatif, de te renvoyer là où tu as bâti, le milieu que tu as bâti. Assieds-toi avec un tube, regarde le fruit de ce que Dieu a fait. Parce que de même, un autre garçon ou une fille va vivre pour le restant de ses jours avec ce que tu as bâti. C'est comme ça. Tu vas t'asseoir pour goûter au fruit de ton éducation. Ce que tu as transmis à tes enfants, tu vas les vivre matin et soir. Et tu vas voir si ce que tu as semé est bon. Si sur le temps, ça produirait quelque chose d'intéressant. C'est un moment où cette maladie nous amène à reconsidérer la relation interpersonnelle de père à mère, de mère à père, de père à enfant. Que nous apprenions à dialoguer, nous apprenions à échanger, à reposer. Parce que des choses aujourd'hui ont détruit la famille. Les parents ont démissionné. La famille meurt parce que les gens sont allés poursuivre maman. Le message de cette maladie, Église, c'est qu'on retourne aux fondamentaux. C'est qu'on retourne à l'essence. La famille malade, l'Église malade. La famille malade, le pays malade. La famille malade, l'humanité souffrante. C'est le temps. On ne doit pas fuir nos responsabilités. Il est temps de prendre ses responsabilités. Dieu cherche un homme, une femme qui dit, Seigneur, je prends mes responsabilités. Je ne veux plus fuir. Je suis le pasteur de mon petit troupeau. Je veux l'encadrer. Je veux te rendre des comptes. Je veux montrer que tu n'as pas fait l'erreur de m'appeler père ou mère. Ou tu n'as pas fait l'erreur de m'appeler enfant dans cette famille. Voilà le sens de la maladie. Au premier confinement, on s'enfermait dans la chambre. Et qu'est-ce qu'on faisait? On mangeait le pain sans levain. Hein? On mangeait la parole non corrompue. Parce que l'image du pain, c'est aussi la parole de Dieu. La parole non corrompue était mangée. Les herbes amères étaient mâchées. En souvenir d'une chose, ce n'est pas avec facilité qu'on entend le courage de Dieu. C'est parfois dans la vie qu'on le rêve. C'est ça le message, une dimension du message. Ne t'enferme pas dans le confinement et tu mets le pain de vie de côté. Tu mets le pain de vie de côté, tu mets les herbes à main. Tu oublies d'enseigner aux enfants que, comme tu vois là, mon fils, ma fille, c'est au bout des efforts qu'on obtient, c'est au bout des luttes qu'on obtient. Bien-aimé, on doit rentrer aux fondamentaux. La famille a besoin d'être reconstruite. La famille a besoin d'être reconstituée. C'est le premier palier de la vie sociale qui doit être reconstruit. Si on ne reconstruit pas la famille, c'est très dangereux. La famille a besoin d'être totalement reconstruite parce qu'elle connaît beaucoup de difficultés. Elle connaît beaucoup de difficultés. Autre chose qui a besoin d'être reconstruite dans la construction sociale. Vous savez, la société a 7 niveaux d'influence pour les affaires des sphères qui doivent être visitées par Dieu. Vous voyez un peu? Et chacune de ces sphères a besoin de connaître le Christ ressuscité. S'il ne connaît pas le Christ ressuscité, Jésus ne pourra pas se manifester dans cette nation. Le réveil que nous attendons n'aura pas lieu. Dieu, par ses moyens, nous dit rentrez à la base, rebaptisez, ce n'est pas bon, rebaptisez les choses, reformez les choses. Et le retour en famille marque quoi? J'ai dit le retour de l'église des familles, c'est le retour aussi de la prise à la prise de ses responsabilités personnelles, c'est bien plus que ça. C'est le retour au ministère. Parce que pendant cette période, est-ce que le confinement peut dire qu'on ne peut plus prêcher l'évangile? Je dis non. Par le confinement, on peut continuer à prêcher l'évangile. On peut continuer à faire connaître Jésus-Christ. Il y a beaucoup de moyens. Pendant longtemps, le téléphone nous a servi à nous égarer, à perdre du temps. Aujourd'hui, le téléphone est un moyen efficace. S'il permet de communiquer, il permet de gagner les âmes. La radio peut nous permettre de gagner les âmes. Et même, dans une certaine mesure, conduit par le Saint-Esprit, les échanges interpersonnels. Pour prêcher l'évangile à quelqu'un, tu n'as pas besoin de l'embrasser. Peuvent se passer et l'évangile peut être diffusé. Selon que le Saint-Esprit t'explique, quand tu rentreras au ministère, si c'est selon, conformément à la paix du Saint-Esprit, Dieu ne manquera pas de te protéger. Tu n'as pas besoin d'avoir peur. Dieu te protégera certainement et il laissera rayonner sa gloire sur ta tête. Tu ne failliras point, tu ne verras point la honte, tu ne verras point l'abandon et le mépris. L'Éternel sera celui qui relèvera ta tête et témoignera de la gloire que tu as avec lui. On a besoin aujourd'hui de partager son pain avec le voisin. Pendant que les choses deviennent compliquées, on a besoin aujourd'hui de se poser la question, quand tu as mangé en famille, est-ce que mon voisin a mangé? Est-ce que celui-là qui ne travaille pas à côté l'a mangé? Ce qui nous appelle au deuxième point, de la deuxième sphère, à la deuxième sphère qui doit être influencée, la sphère de l'économie. Dans l'économie, aujourd'hui, on a besoin de repenser notre système de vie. Nous voici en tant qu'église. D'ici peu, certaines familles vont souffrir. Si le confinement se prolonge, certaines familles risquent de souffrir parce que nous avons manqué d'esprit d'initiative pour en souffrir. Peut-être que je veux paradis. Si dans un couple, les deux parents sont enseignants, ils font le privé, qu'est-ce qu'il est arrivé maintenant? Hein? Ça, ce n'est qu'une dimension. On multiplie. On va se rendre compte qu'à cause de ces choses, les prix des marchandises sur le marché peuvent changer. Beaucoup de choses vont devenir compliquées. Mais ne vous inquiétez pas. La Bible dit que Dieu connaît comment nourrir les oiseaux des cieux. Ce n'est pas vous qui ne manquera de nourrir. Mais je voudrais que notre rôle en tant qu'église, que nous voyons ces défis et que nous sommes prêts à les relever. D'ici peu, il y a parmi nous des parents, pères, mères qui sont enseignants. Et en dehors de ça, il y a d'autres qui font des métiers, ils ne pourront plus bouger, ils ne pourront plus exécuter leurs tâches tranquillement. Ceux qui font les petits commerces, interdits de certaines façons. Si ça monte comme en France ou en Allemagne, au bout d'un certain moment, on va se demander. Écoute, ce n'est pas venu se tuer. C'est venu remettre en question le social. Nous ne connaissons plus nous soutenir les uns les autres. Et même dans cette maladie, je ne veux pas savoir les origines. Il y a beaucoup de spéculations sur les origines. Mais je vais te dire que beaucoup voient en cette maladie un business. Oui, l'être humain est devenu suffisamment méchant pour voir dans la douleur de son frère le business. Est-ce qu'il n'y en a pas qui prient aujourd'hui que les gens meurent afin que le commerce et les cercueils passent? On parle de quoi? C'est très sérieux. L'église gémit, la nation gémit, le peuple gémit. Pourquoi? L'homme a perdu la face de Dieu. Il a perdu l'image et la ressemblance à Dieu. Économiquement, tous nos systèmes économiques sont remis en question. Et Dieu, au travers de cette maladie, est en train de nous montrer que ce n'est pas parce que nous sommes trop forts économiquement, nous ténons. Même ce que la nature nous rend est le fruit de sa grâce. Dieu est en train de nous montrer qu'il suffit d'une seule minute. Il décide. Personne ne mange, personne ne boit, personne ne sort, personne ne bouge pas. Il y a de cela quelques temps, si on disait ce message à quelqu'un, il va dire fond le cas. Avec tous les moyens évolués de la science aujourd'hui, même la science est dépassée. Même la science est dépassée. Beaucoup de spéculations, de théories sont faites. Je ne méprise pas mes frères scientifiques, les médecins, les chercheurs qui se battent pour nous. Mais ce que je veux dire, c'est que l'homme sur la terre, pour vivre, a besoin de plus que l'homme. Et l'église que Dieu fait naître est une église qui ne s'arrête pas au niveau du naturel. Or, ce que nous épuisons, nos quêtes, nos défis au quotidien, poursuivre les biens matériels, poursuivre les choses périssables, poursuivre les choses qui n'ont aucune valeur devant Dieu. Alors que Dieu a fait une église surnaturelle pour passer au-delà des difficultés de la société. Afin que là où le médecin dit, c'est compliqué, on a fait les fous, on ne trouve pas. Qu'un enfant de Dieu qui a le don de guérison dise, au nom de Jésus, maladie, arrête-toi dans ce corps.
qu'un enfant de Dieu dise, à partir d'aujourd'hui, faites comme ci, faites comme ça, comme ce fut le cas avec Joseph. Quand il a senti la misère en Égypte, il a pris le devant, il est entré dans l'intimité de Dieu pour commencer à prévoir les temps de difficulté. Et il a prévu les temps de difficulté au point où, quand la misère est arrivée, ça n'a pas fait grand-chose, sa personne n'est trop mort. Parce qu'il y avait eu là, il y avait des gens qui ont prévu cela et qui ont anticipé ce coup. C'est l'intelligence que nous avons, dont nous avons besoin aujourd'hui. Des hommes qui anticipent sur la difficulté, qui pensent la société avant, qui pensent l'économie, qui pensent les finances. Ça, c'est dans le monde, ça, c'est dans la société, ça, c'est à tous les niveaux. Ces défis-là, nous avons besoin de les relever. Aujourd'hui, cette difficulté nous enseigne dans l'économie que seule la foi peut acheter de façon durable les biens de vie aujourd'hui. Écoutez bien, seule la foi est la monnaie qui achète efficacement en notre époque aujourd'hui et qui fait prévaloir les biens sur une longue distance. L'argent a montré ses limites. L'argent t'achète un lit, l'argent ne t'achète pas la santé, l'argent t'achète, je ne sais pas quoi, dollars, euros, francs CFA, et tout ce que rouble, roupie, et tout ce que tu peux connaître, achète les biens matériels, ne peut pas acheter les biens durables. La vie et le souci ne peut pas. Or, la foi est la seule monnaie, la monnaie des enfants de Dieu, qui achète, qui achètera aujourd'hui, qui achètera demain, et qui achètera dans l'éternité tout ce qu'on fait. La foi est la seule monnaie dont nous avons besoin aujourd'hui au Cameroun pour vivre. L'économie a besoin des hommes de foi, des hommes qui plantent en sachant que l'Éternel arrose, il multiplie, il développe. L'économie a besoin des hommes aujourd'hui qui comptent sur l'Éternel, qui parlent à la terre. Dieu a dit à la terre que la terre ne nous produise plus son fruit. Mais l'économie a besoin des hommes qui ont la grâce, qui parle à la terre et qui demande à la terre de donner son fruit par la grâce reçue en Jésus-Christ, et la terre donne son fruit. On a besoin de chrétiens dans l'économie aujourd'hui. On a besoin d'hommes et de femmes qui se mettent à part pour demander à Dieu comment va fonctionner la société nouvelle. On en a vraiment besoin. Dans la religion ou dans l'église, cette maladie nous prépare et révèle la vraie église confessionnelle. Parce qu'il y a une église de masse dans laquelle on appartient à des registres, dans laquelle on appartient à un système. Cette église n'est pas l'église que Jésus va enlever. L'église que Jésus va enlever, l'église préparée pour l'enlèvement, l'église préparée pour le jugement éternel, l'église préparée pour la vie éternelle, c'est cette église qui est née dans le silence, qui est né là où il n'y a personne. C'est cette église qui confesse Jésus, là où il n'y a aucun nom, là où il n'y a aucun enjeu, là où il n'y a pas d'intérêt. C'est cette église-là, l'église vraie qui craint Dieu, là où il y a les hommes et là où il n'y a pas de hommes. C'est cette église qui a reçu le témoignage, la marque de Jésus. Amen. C'est cette église qui confesse véritablement. Quand elle lève les mains au ciel, Dieu reconnaît cette église. Et c'est pourquoi Dieu la glorifie en tant que porteur. C'est cette église-là qui doit pouvoir s'élever. La sphère de la religion doit être affectée de façon considérable. J'ai dit tout à l'heure, ce problème nous fait rentrer à l'église, aux églises des maisons. Ce problème nous ramène à la manifestation des couloirs, la manifestation des ministères, des dons spirituels, des couloirs individuels. Et fait que l'église rentre à la vision divine. Qui est bâti une église qui est constituée, qui est corps de Christ, constituée des ministres, des ministères, qui se respectent mutuellement. Ce problème-ci, en te renvoyant en famille, t'envoie dans le champ de mission. Ce n'était pas un problème qui t'envoyait dormir. Je veux dire un chrétien qui se couche maintenant pour dormir, qui n'a rien compris. S'il y a un pasteur, un serviteur de Dieu, qui estime que maintenant, comme il y a confinement, on a plus de travail à faire, celui-là n'a rien compris. S'il y a quelqu'un qui pendant ces moments organise les moments même comme ceci, pas parce qu'il veut le salut et l'édification des âmes, mais parce qu'il guette l'argent, cet homme-là n'a rien compris, c'est un mercenaire. S'il y a des hommes, des femmes qui trouvent en ces moyens, en ces moments de rassemblement, une fuite
une fuite de responsabilité. Cette personne n'a rien compris. L'église que Jésus attend aujourd'hui, c'est une église qui prend ses responsabilités, qui entre dans l'intimité, qui cherche la face de Dieu, qui prend ses responsabilités, se met en marche. Et Dieu la bénit. Elle équipe le prolongement de sa main, le prolongement de sa bouche, le prolongement des pieds de Jésus dans la société. Jésus veut parler dans le Cameroun, mais Jésus nous renvoie dans la chambre secrète, afin que là, nous soyons visités de Dieu, préparés pour accomplir ses œuvres merveilleuses. Voilà la mission que Dieu nous assigne autour de tout cela. Ça, c'est le rôle de l'Église. C'est une partie, pardon, du rôle de l'Église. Que nous enseigne cette maladie? Elle nous amène à développer des nouvelles passerelles d'évangélisation, des nouvelles stratégies d'évangélisation. Dieu n'est pas le Créateur. Ne sommes-nous pas sa créature? Si Dieu a créé, nous en tant que sa créature, nous sommes appelés à créer comme le Créateur. Amen. Dans la religion aujourd'hui, les ministères doivent s'établir. J'ai souvent rappelé et je le rappelle encore. Dieu attend aujourd'hui que les ministères s'élèvent et que la maternité spirituelle soit bien vue. Je le dis souvent, la maternité spirituelle, c'est le ministère des évangélistes. Ce sont ceux qui enfantent la nouvelle race, qui est prêt à relever le défi de peupler le ciel. Le deuxième ministère, à partir de ce moment, c'est le ministère des pasteurs. C'est la mère dans la maison de Dieu. C'est pourquoi les pasteurs ont le cœur, un cœur aimant, pour porter les jeunes enfants, les nouveaux-nés, et les amener à l'adolescence spirituelle. Et après eux, vient maintenant le ministère des docteurs. Le docteur prend le jeune, l'adolescent, l'amène à la maturité. Et comme la parole est efficace, que quand elle est devenue un feu, quand le docteur a fini d'ensemencer, de donner des paroles mûres, des paroles sereines, des paroles profondes, de donner la pleine mesure de la connaissance au jeune homme, le prophète est chargé de l'amener à réaliser les expériences surnaturelles, de couvrir le Dieu surnaturel. C'est la porte qui ouvre c'est la porte qui ouvre le boulevard du surnaturel. Et c'est cette église que Dieu attend. Cette église qui relève le défi dans une nation que Dieu attend. C'est cette église qui relève le défi des parents, le défi des économistes, le défi des ingénieurs. C'est cette église que Dieu attend. Cette église qui compose avec Dieu. Les prophètes initient le surnaturel. Et les apôtres viennent couronnement. Ils orientent, ils donnent, ils orientent, ils envoient en mission. Ils veillent sur les bases doctrinales. C'est comme ça que le corps de Christ, dans le Nouveau Testament organisé, voilà le défi de l'Église. Rentrer à la vision divine, rentrer au fondement divin, permettre à Dieu de parler dans la nation. C'est pourquoi Éphésiens 4, du verset 11 à 13, dit que Christ est établi dans la nation lorsque les ministères là sont clairement établis. Est-ce qu'on peut lire ça rapidement? Éphésiens 4, 11 à 13. Rapidement, rapidement.
Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer.
Et il a donné les uns comme apôtres,
les uns comme apôtres,
les autres comme prophètes,
les autres comme évangélistes,
les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ.
Pour t'adorer,
jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. À l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ.
Soit multiplié dans le corps de Christ. Que des hommes et des femmes petits dans le Saint-Esprit se lèvent et que l'Église soit touchée. Les sept sphères soient visitées. L'éducation, l'économie, la politique ou le gouvernement, les familles, la culture, le sport et tout le reste soient visités par les enfants de Dieu. Les ministères affectent, touchent chacun de ces domaines. Christ se révèle avec majesté dans chacune des dimensions de la vie du Cameroun. C'est ça une des dimensions de la soif de Dieu autour de toutes ces choses. Écoutez, si nous passons à côté de la compréhension de ces moments, nous sommes malheureux. Nous avons commencé ce programme nombreux, c'est pas ça? On a dit confinement, il y a eu confinement, premier tamis est passé. Le premier tamis est passé. Certains n'ont pas échappé aux mailles du filet. Ils sont restés en haut, ils sont restés à la maison. Ils ont compris confinement, abandon. Confinement, non, vraiment, les choses là, c'est dangereux. On n'y va plus. Ils ont compris confinement. Le professeur Sangui, à la CIA TV hier, et à Equinox, là-bas, il disait que non, il conseille aux églises qu'en faisant le culte, qu'on relève les défis de prendre les écarts, de faire ce que nous faisons là. Et un autre médecin après disait que. On peut avoir des églises trop à l'étroit. S'il y a 50 personnes dans cette salle, ce n'est pas différent d'un bus qui voyage. Et à ce moment, la contagion est possible. Donc ce n'est pas une affaire seulement d'espace. C'est une affaire beaucoup plus de métrage, d'écartement. Il y a ça, il y a des petits gestes, nous aimons bien. Mais pour un petit temps, moi-même je demande pardon, cessons de nous taper les mains. Cessons de nous embrasser. Moi-même j'aime vous embrasser, j'aime vous saluer. Mais laissons ça pour un moment, ça ne va pas nous tuer. Je vous assure, ça ne va pas nous tuer. Ça ne va pas nous tuer, nous allons loin. Ne laissons pas ces petites choses nous déranger. Et il y a des chrétiens mal zélés, pensent que quand des règles établies comme ça, ils peuvent les violer impunément. Écoute, tu dis que Dieu va te protéger, mais si Dieu va te protéger, et que tu entres, tu, toi-même tu sais que Dieu te protège, non? Mais je prends l'exemple. Pas le temps de Yaoundé à voiture pour arriver ici à l'ouest. Il entre dans la voiture, il prend le soin de chercher un chauffeur qui sait freiner, qui sait accélérer quand il faut, qui sait freiner et qui sait. Et imaginez qu'il dise Dieu va le protéger et qu'il cherche une voiture sans frein, il se marre. Qu'il va se passer. Sa foi sera belle et sera un scandale, non? Écoute, c'est important ces petites choses. Tu sais que Dieu te protège. Tu sais ça très bien, mais pourquoi tu portes, je ne sais pas quoi, une veste, il pleut. Moi tout à l'heure, là, je savais que Dieu me protège, mais quand la pluie a commencé au quartier, j'ai cherché le blouson que j'ai mis sur moi. Pourquoi? Est-ce que Dieu ne me protégeait plus? Il y a un minimum de choses qu'on doit faire sans débat. On se comprend. Vraiment, respectons ça. Je vous ai dit en Corée du Sud, c'est dans les milieux chrétiens, à l'église que vous et dans les maisons. On n'a pas respecté ces mesures. S'il vous plaît, c'est sérieux et or. Le temps est le défi d'arrêter son corps. Le défi de dire aux petits membres qui influencent beaucoup de gens et qui renversent l'équilibre familial. Tais-toi! Il y a danger en bas, en famille. Tais-toi! Et je l'aime beaucoup, beaucoup, je t'aime. Si je ne te vois pas, c'est comme si je suis mort. Oh, depuis que je ne t'ai pas. Tout ça, c'était aujourd'hui. Sur le plan social, cette maladie a le mérite d'arrêter les spéculations. Oh, ambazonien, oh, des choses, oh, montée descendue. Oh, Trump là-bas aux États-Unis qui dit ça va. On n'écoute plus personne, les gens. On n'écoute que la maladie. Ça a le mérite de remettre tout le monde sur la même route. Le mérite de mettre tout le monde à penser de la même chose, à défendre l'intérêt collectif. Nous rappelons l'unité. Écoute, cette maladie
Je ne dis pas qu'elle est bien, mais elle est comme un pédagogue, comme un pouvoir pour corriger l'espèce humaine, pour corriger les hommes et les femmes que nous sommes. Nous avons beaucoup entamé les choses sans Dieu et nous informons ces bons dieux de nos créations. Et nous déterminons la longévité des femmes. Et nous déclarons que tel homme seront tel nombre de populations. Sans prévoir que Dieu peut dire mon que. Mais vous comptez sur quoi? Quand la maladie a commencé en Allemagne, et ils savaient que la population était beaucoup vieillissante, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont anticipé. Ils savaient que s'ils laissent la maladie se développer chez eux, la société va être rasée. Ce sera comme si on a effacé le peuple allemand. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont anticipé. Et que nous savons contourner toutes les règles établies. Nous avons les étaux, nous avons les milas, nous avons, et nous-mêmes, nous tous sommes devenus les étaux, les milas. Toutes les règles conformes des étaux. D'ailleurs, quand on va dire qu'on ferme les vagues, les gens se retrouvent dans, derrière. Ils s'asseyent et ils lèvent le coude et ils se racontent des histoires. Et parfois, tu vois quelqu'un boire, il finit de boire, il met dans la bouche de l'enfant. Il met dans la bouche de l'enfant. Tout ça va nous aider à régler nos mentalités. Les gens qui sont toujours avec le téléphone. Le téléphone, qui ne peut pas garder le téléphone un moment. Écoute, tu finis d'utiliser ton téléphone en journée. Quand tu l'utilises, la sueur pousse le téléphone vrai ou faux. Parfois, tu passes à quelqu'un, il touche vrai ou faux. S'il a la maladie et qu'il laisse les machines qui touchent, qu'est-ce qui t'arrive après? Après, tu es sur ton visage, c'est parti ou ce n'est pas parti? Il faut non seulement la prudence, mais il faut la foi, il faut la discipline. Le défi est là. Chrétien comme non chrétien, nous devons les relever aujourd'hui. Tu veux jouer au tétu, ça te chicote, ça te met dans quatre morceaux de bois. On colle ça. Le menuisier passe, il appuie les poings. Et ton deuil n'y a personne. Merci. Ton deuil n'y a personne. Mais qui fait le deuil encore? Tu appelles les gens, on vient pas. On vient chercher la mort. Même si on t'aime beaucoup, on ne vient pas. On ne vient pas, mon frère.
Ta puissance parmi
nous. Frère, au niveau naturel, il y a des choses que nous devons
comme
faire
une biche
qui sont simples.
Être à notre portée.
J'ai dit le deuxième confinement a propulsé la naissance de l'église qui opère aujourd'hui, qui nous a légué cette message. Et ce confinement, j'ai l'impression, est la gestation de la nouvelle église. On parle de quoi? Des temps nous. Nous avons dit prophétiquement, il faut qu'on s'asseye, qu'on fasse la part des choses. C'est un peu comme si Dieu dit, pour les temps nouveaux, la femme, la jeune femme que j'ai enseignée depuis longtemps et qui a enseigné, doit entrer dans l'intimité, prendre le congé de maternité pour que l'enfant soit bien nourri, bien encadré, bien préparé à enfanter. Écoutez bien, Dieu est pour nous, il n'est pas contre nous dans cette bataille. Il est pour nous. Et je voudrais vous dire que la politique ici là, malgré tous les jonglages, aujourd'hui est obligée de dire un minimum. C'est vrai ou pas? Tu ne dis pas. Le jour où ça sort, on fait ta tête. Et au début, quand la crise a commencé, on s'est plaint des Chinois. Pourquoi? Ils ont caché un peu les informations au début, ils n'ont pas dit la vérité. Aujourd'hui, un gouvernement qui ne dit pas la vérité, quand ça le rattrape, c'est sa mort. Tout le monde, ce n'est plus ton peuple qui crie, c'est le monde qui te flagelle. Ça sort de partout, on te chicote aux médias, on te chicote et ta tête tombe. Cette maladie sur le plan politique va nous apprendre à nous entraider les nations. C'est comme le pédagogue divin, la chicote divine, pour dire à l'homme que l'homme vit déjà trop comme un animal. Et qu'on doit rentrer au béaba, la vie sur terre, c'est l'entraide. Les échanges, le respect mutuel. Sur le plan de l'éducation, dans la sphère de l'éducation, cette maladie, c'est le retour de la prise des responsabilités parentales dans l'éducation de l'enfant. Il n'est plus question que tu abandonnes ton enfant au professeur, tu abandonnes ton enfant à l'église, au pasteur, tu abandonnes ton enfant à un tonton qui est passé. Je ne dis pas qu'il ne peut pas t'aider, je ne dis pas que le pasteur ne peut pas apporter l'aide, mais je dis quelque chose. Il est question de prendre tes responsabilités aujourd'hui. Quand ton enfant étudie, d'arrêter, vois ce qu'il lit dans son, vois ce qu'il lit dans son cahier, vois ses faiblesses, vois ses forces.
Il est question de ça aujourd'hui. Il est question de causer avec ton enfant. Voir ce qu'il y a en lui qui empêche que sa mémoire fonctionne. Sur le plan de l'éducation, il est question aujourd'hui. Cette maladie nous dit que rentrer au béaba de l'éducation de la vie en société, rentrer en famille, rétablir les relations qui régissent les rapports entre frères et sœurs. Si vous ne le bâtissez pas ça, même à l'école, on va détruire vos enfants. Le jamol va continuer tout le reste. C'est comme un frein divin pour dire rebaptiser. C'est une opportunité. 2 Chroniques 7, 14, 15. Si mon peuple, si qui est, invoquer mon nom, fait quoi? Cherche. Je ferai quoi?
Je te bénirai.
Je pardonnerai son péché. Son péché, je passerai son pays, je guérirai. Voilà ce que Dieu va encore faire aujourd'hui. Et j'aimerais proclamer cette parole du psaume 91 que la Bible a dite du milieu de cette église afin que nous nous rappelions ces promesses de Dieu. On va prendre le psaume 91. On va lire du verset 1 au verset 8, 9, 9. Du verset 1 à 9. On va écouter les promesses de Dieu là-dedans. C'est très clair. Dieu est vivant. Il veut continuer à vivre avec nous.
Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes. Et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni
la peste qui vole de journée,
ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint.
Tu ne seras pas.
De tes yeux seulement, tu regardes. Tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants.
Tu regarderas et tu verras. On peut laisser là-bas. La rétribution des méchants. C'est très clair. C'est la parole de l'Éternel. Il n'a pas changé. Cette parole reste vraie. Quand les eaux, les montagnes trembleront, quand les collines. Mon amour pour toi et tout ça, Dieu a dit une fois, celui qui se confie en lui n'est point confond. 1 Pierre 2, verset 6, celui qui se réfugiera dans ce rocher ne sera pas confondu. La parole de l'Éternel est cette fois éprouvée au feu, elle ne souffre de qu'un vide. Nous sommes dans une maison de certitude, mais dans une maison qui exige de nous l'humilité, qui exige de nous la simplicité, qui exige de nous la droiture. La Bible déclare, les enfants de ce siècle sont plus prudents que les enfants de lumière. Il ne faut plus que ce soit le cas. La Bible dit, soyez prudents comme des serpents, doux comme des colosses. Frère, quand c'est nécessaire, sois prudent. Prends tes pieds et fuis pour fuir. Ne fais pas les plans. Jésus lui-même a fui à des moments.
On a pris, quand on a voulu le lapider à l'église, un moment, on a accepté sa doctrine. Il a pris son chemin. Paul lui-même a eu à fuir. Un moment, quand c'est mauvais, fuit. Écoute-moi, si on disait aujourd'hui là, qu'on fermait l'église, le bâtiment, si l'église n'est pas fermée. Écoutez-moi bien. Si on disait qu'on fermait le bâtiment, c'est qu'on doit se retrouver. L'église n'est pas fermée. Parce que l'église n'est pas le bâtiment. L'église, c'est les personnes en communion avec le ciel. Le ciel ne se ferme pas. Il ne peut pas se fermer. N'aie pas peur. L'église ne peut pas se fermer. Si même on dit au pasteur, n'ouvre plus. L'église. C'est juste un moment, un test, une épreuve, la décapitation. On sait qui est qui en ce moment. Les gens qui font le smurf spirituel vont prendre la route des champs. Ceux qui font les gauche-droite, un pied dedans, un pied dehors, vont se déterminer. Et puis ceux qui sont dedans vont s'élever. L'église de Jésus va s'élever. Écoutez-moi, on ne peut pas faire une église. Parce que l'église de Dieu n'est pas une église matérielle, arrêtable. C'est une église spirituelle. Elle est constituée d'hommes et de femmes qui craignent le Seigneur, comme une communion avec le ciel. Ça ne peut pas se fermer. N'aie pas peur. C'est de la religion que de croire que si à un moment on dit qu'on ne se retrouve pas ici, que l'église a arrêté, l'évangile. Non, c'est juste un test pour les personnes flottantes. C'est le temps de la décampe. Le défi là, on doit le relever. L'église opérante de Dieu, c'est une église au-dessus du naturel. Le naturel nous a proposé le coronavirus qui semblait taper les moyens naturels. Alors l'église de Jésus, comme elle est surnaturelle, on attend la sortie des hommes pétris dans le cœur de Dieu, dans la chambre des noces avec Jésus, qui doivent apporter des solutions efficientes dans ce pays. À titre de rappel, celui dont j'ai cité le nom là tout à l'heure, le professeur Sopui, c'est un enfant de cette paroisse, il est sorti de cette paroisse. C'est un enfant de Dieu qui ne joue pas avec sa voix. Il est très sérieux. C'est le temps que Dieu nous montre plus. Il est temps que les enfants de Dieu prennent le devant pour apporter les solutions. Ce sont eux, avec un collège de professeurs, qui ont tenu les premiers cas. Et nous sommes une solution divine au cœur de ce peuple. C'est la solution que va faire la société. Le défi est plus grand que la quête des petites choses matérielles, que la quête des petits intérêts, d'un petit renom, la poursuite de certaines choses. Le défi dépasse tes ambitions. Le défi épouse la vision de Dieu de la société. Le défi épouse les standards de Dieu. Le défi épouse la pensée divine. Bienvenue. Le temps est déjà arrivé. J'allais aller plus loin. Dieu met en toi son esprit pour faire de toi une race d'hommes bâtie selon les standards de Dieu en Jésus-Christ. Une race d'hommes préparée pour être la race des frères de Jésus afin de dépasser les problèmes naturels. Écoute-moi bien. De dépasser les problèmes naturels. Et maintenant, c'est le temps que cette église continue. Cette église préparée, pétrie dans les entrailles de Dieu s'élève. Qu'elle relève le défi de l'honnêteté, de la droiture en société, de la simplicité, de l'ordre et de l'organisation. Qu'elle se montre ordonnée. C'est le temps où l'église doit être ordonnée. On ne peut pas dire au monde d'être ordonné quand les chrétiens ne peuvent pas être ordonnés. On dit aux chrétiens, ne vous embrassez plus, ne faites plus ci, ne faites plus ça. Ne vivez plus le désordre, ne prenez plus, allez plus chez les mains. On prend la lame, on t'incise n'importe comment. Et tu continues, Dieu laisse les maladies comme ça venir te corriger. Tu tentes, tu vois. Un moment dans le désert, le peuple d'Israël est têtu. Qu'est-ce que Dieu a fait? On a élevé le serpent des reins. Il fallait regarder au serpent pour vivre. Si tu dis que tu es trop courageux, le serpent te mord. Tu dis que je suis fort, tu vas mourir. Il fallait regarder. Le coronavirus ne va pas arrêter l'évangile de Jésus. Il va travailler à préparer l'église, corps de Christ, à entrer dans son appel, à être cette église que Dieu attend, prête à porter le réveil. Si nous comprenons bien, ça va préparer le corps de Christ à être cette église de réveil qui porte la nation et la propulse dans des standards nouveaux. C'est le temps de la décantation. Je crois que
Même les gens qui se sont rassemblés pour écrire le livre, c'était un acte très prophétique. Des temps nouveaux. Je ne sais pas si on paysait bien l'enjeu de ce qu'on écrivait. Mais ce qui est sûr, c'est que ça épouse très bien le contexte. Et c'est comme si Dieu avait voulu parler depuis des temps nouveaux. On le dit d'une ou d'une autre. Il y a des gens qui écoutent, d'autres n'écoutent pas. Ce qui est clair, c'est que tout sort, même celui qui n'écoute pas aujourd'hui, le païen sait qu'on est dans des temps particuliers. Nouveau ne serait-ce qu'à cause des événements vécus. Même si ce n'est pas des événements vécus, nous savons que nous allons loin. Dieu a des promesses dans cette nation. Alors, s'il y a quelqu'un qui invoque le Seigneur, quelqu'un qui veut relever le défi, j'ai dit trois étapes. Première étape, réconciliation avec Dieu, rétablissement de la communion. Deuxième étape, acceptation de soi, acceptation du ministère. Troisième étape, acceptation d'autrui, acceptation d'être le prolongement de la main, de la bouche, des pieds de Christ en société. Acceptation de ton appel ministériel. Coordination et collaboration entre les ministères. L'église de Christ va s'élever, les maladies vont fléchir les genoux au nom de Jésus. L'économie va prospérer au nom de Jésus. L'économie, les finances, la politique, l'éducation va prospérer au nom de Jésus. Si nous comprenons bien ces moments, nous sortons grandis de ces moments. La mentalité des hommes qui doivent sortir de cette étape du coronavirus doit être une mentalité nouvelle. Des hommes nouveaux. Ce sont les hommes qui braveront. Si tu ne veux pas être nouveau, tu risques de t'arrêter en chemin. Et même ceux qui ne vont pas accepter d'être nouveaux après le coronavirus vont être rattrapés. Toujours on est rattrapé lorsqu'on veut échapper aux règles de Dieu. Bien-aimé, arrêtons ici, sinon ce sera terrible. Bien-aimé, si tu sais que Dieu t'a préparé pour cela et tu sais que Dieu veut que tu laisses de côté les choses qui te distrayaient de lui, on a dit premier élément, la réconciliation avec Dieu. Est-ce que tu es vraiment réconcilié avec Dieu? Est-ce que Dieu se reconnaît en toi? Est-ce que toi, tu te reconnais en Dieu? Premier degré, si à ce niveau, toi-même, tu sens qu'il y a des balbutiements, tu es encore trop au trône de ta vie, c'est le moment de se réconcilier, de laisser le gouvernail entre les mains de Dieu. Deuxième niveau, si tu sais que tu ne t'acceptes pas, tu n'as jamais accepté ton ministère, tu ne connais même pas qui tu es, c'est le temps de se réconcilier avec toi-même. Troisième niveau, si tu sais que tu n'as pas encore entamé le ministère pour être le prolongement de la main de Jésus autour de toi, dans ta famille, auprès de ton épouse, auprès de tes enfants, au quartier et partout. Mais c'est le temps de crier à Dieu, de dire à Dieu, je veux relever le défi, mais j'ai besoin de toi.
Je veux te suivre, mais je ne me sens pas assez. Je veux tout laisser, oui, tout abandonner. Je veux te suivre, oh, te suivre, mais je ne me sens pas assez. Je veux tout laisser, oh, tout laisser, oui, tout abandonner.
Prends-moi, Seigneur.
Prends-moi, Seigneur, oh Jésus, prends mon âme.
Ma vie, Seigneur,
ma vie, Seigneur, et guide-moi. Je veux te suivre, te suivre, mais je ne me sens pas assez fort. Je veux tout laisser, oui, tout à je veux te suivre, je veux te suivre, mais je ne me sens pas. Je veux tout laisser, je veux tout laisser.
Si tu le crois vraiment, commence à parler à Dieu. Dis à Dieu, me voici. Seigneur, ce soir, je veux tout laisser. Je veux quitter le trône de ma vie. Je veux quitter le trône de ma vie. Je veux arrêter de décider comme un enfant têtu et rebelle. Je veux te laisser le gouvernail de mes jours. Seigneur, viens régner dans mon histoire. Viens régner dans ma destinée. Viens t'établir. Que ton règne vienne sur moi. J'ai soif de toi. J'ai
besoin de toi, Seigneur. Si tu me laisses, je péris. Oh Yahvé, visite-moi. Visite-moi. Et que la communion reparte de plus belle avec toi. Seigneur, je suis malade dans mes émotions. Je suis malade dans mes sentiments. Je suis malade dans mes valeurs. Je ne m'accepte pas. Je livre la guerre aux gens. Parce que moi-même, je ne me suis jamais accepté. Seigneur, je suis malade au fond de moi-même. Ma famille est pourrie à cause de moi. Seigneur, viens me guérir. Guéris-moi dans les profondeurs de mon être. Et que tout ce qui n'était pas alléluia à ta gloire, Seigneur, soit ramené à l'obéissance à ta parole. Oh Seigneur, viens visite. Visite la terre de mon histoire. Visite la terre de ma vie. Que les parties desséchées de mon être soient arrosées et visitées de toi. J'ai besoin de toi, Yahvé. J'ai besoin de toi, Yahvé. Seigneur, visite mes relations avec mon épouse, avec mes enfants. Visite mes relations avec mon voisinage, avec les membres de ma famille. Je suis malade. J'ai besoin, Seigneur, de toi. Dans l'économie, notre nation a besoin de toi. Dans la politique, nous avons besoin de toi. Dans la santé, nous avons besoin de toi. Dans la culture, nous avons besoin de toi. Dans la communication, nous avons besoin de toi. Seigneur, nous soupirons après toi. Visite ton église. Nous donner de comprendre tes plans, que ces moments soient déterminés pour nous, afin que nous ne soyons pas comme des brebis sans berger. Seigneur, tu nous montres au travers de cet enseignement que c'est le temps de la décantation. T'es nous donner, Seigneur, de passer du temps, Seigneur, à tes pieds, de passer des veilles à chercher ta face, de travailler à bâtir nos familles. T'es nous donner, oh Yahvé, de renverser ce qui n'était pas ta gloire. Seigneur, nous avons faim de toi. Nous avons soif de toi. Ton esprit, nous en avons besoin davantage. Nous en avons besoin davantage. Nous avons besoin de ton toucher. Nous avons besoin de ton doigté. Besoin de tes lunettes correctrices pour lire notre époque et notre saison. Seigneur, viens visiter ton église. De lui donner de relever les défis qui sont siens, d'être la solution au cœur de cette église, d'être le modèle au sein de cette église, d'être le prolongement de ta main, le prolongement de ta pensée, le prolongement de tes pieds au sein de cette société. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de nous reconnaître les uns les autres, d'être les ministères. Établis-toi et glorifie ton nom. Seigneur, merci de ne pas nous laisser seuls. Merci de nous visiter. Merci de nous visiter. Merci de nous visiter. Merci de nous visiter. D'affermir les genoux affaiblis. D'affermir les mains qui étaient déjà, Seigneur, lassées. Merci, Seigneur, de mettre ton colis dans les yeux de ceux qui ne voyaient plus. Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci pour Saint-Esprit pour l'église aujourd'hui. Merci Seigneur, plus nos vases de ta présence, nous équiper pour relever le défi d'une société nouvelle, relever le défi de l'établissement de ton règne, relever le défi d'être le prolongement de ta race. Merci de nous associer à ton œuvre. Père, que la gloire te relève, te revienne.